Bonsoir. Les naufrages continuent d'endeuiller plus d'une famille en République démocratique du Congo et suscitent plusieurs interrogations en ce qui concerne la protection des passagers et leurs biens. Le plus récent naufrage est celui d'une embarcation qui a coulé dans la nuit de mercredi dernier à la jonction des rivières Kassai et Sankuru. Une vingtaine de personnes mortes et plus de 100 autres portées disparues. C'est le bilan provisoire livré le vendredi dernier par les autorités locales. Selon les premières estimations des sources locales, la surcharge de l'embarcation serait la cause principale de ce drame. Plus de 200 passagers seraient entassés à bord, parmi lesquels de nombreux élèves qui regagnaient leur foyer après avoir présenté les épreuves de l'examen d'État. Dans le territoire de Banalia, en province de la Tchopo, une embarcation a chaviré mardi 2 juin sur la rivière Aruimi, à 128 km au nord de Kisangani. Le bilan provisoire fait état de plus de 60 personnes disparues et de seulement 6 rescapés. Selon des témoins, l'embarcation motorisée qui transportait de nombreux passagers et des marchandises était fortement surchargée. Outre la surcharge manifeste, les autorités dénoncent l'absence totale de contrôle officiel avant le départ ainsi que l'irresponsabilité du conducteur. Dans le Kwilu, une baleinière HB Kabuki a chaviré samedi 30 mai sur la rivière Kwilu, la proximité du territoire de Bagata, causant la mort d'au moins 11 personnes. Selon les autorités locales, 47 passagers ont pu être secourus, tandis que plus de 50 autres portés disparus. Plusieurs rescapés avaient évoqué une possibilité de surcharge. Qu'est-ce qui peut expliquer ces naufrages à répétition sur les cours d'eau de la République démocratique du Congo? Que faut-il pour prévenir ces accidents? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Didier Moukoma, président national de la Commission des transports à la Fédération des entreprises du Congo, FECANSIG, secteur des armateurs. Didier Moukoma, bonsoir. Didier Moukoma, est-ce que vous êtes avec nous? Dans ce débat également, Pierre Sosten Kambidi, bonsoir.
Bonsoir, cher Donat, bonsoir à Don Capuz.
Pierre Sosten Kambidi, vous êtes député provincial élu de Kazumba au Kassai central. Et enfin, Michel Moulongo, économiste des transports et spécialiste en transport multimodal. Michel Moulongo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Maté.
Donat Madimba pour la présentation de ce soir. Nous avons tout fait pour avoir le ministère des Transports dans le débat de ce soir, mais sans succès, mais qu'à cela ne tienne. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Un naufrage supplémentaire en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une embarcation chavirée la nuit de mercredi dans le territoire d'Ilebo au Kassai. L'accident a coûté la vie à 20 personnes. Plus de 100 autres sont portées disparues. 80 autres personnes ont été sauvées par des pêcheurs. Les détails de ce récit avec André Katende.
La baleinière assurait la liaison entre les ports Kalima à Ilebo et la province du Sankuru selon des sources locales. À son bord, plus de 200 passagers, dont de nombreux élèves qui rentraient chez eux après les épreuves d'État. L'embarcation avait quitté les ports en pleine nuit vers 22h pour éviter les contrôles. À la jonction des rivières Sankuru et Kassai, le bateau s'est brisé avant de sombrer. L'administrateur du territoire d'Ilebo, François Kaboula, confirme les bilans provisoires.
80 personnes rescapées et 20 qu'on a trouvé déjà décédées.
Il y avait combien de gens à bord de la baleinière?
Au-delà de 200. Hein?
La société civile d'Ilebo est révoltée. Elle exige un contrôle strict des embarcations et les ports obligatoires du gilet de sauvetage. François Malepo, président de la société civile locale.
Les armateurs ont besoin de l'argent. Ils n'ont pas besoin de vie des hommes. Ils chargent beaucoup de personnes, de marchandises. Ils ne prévoient jamais les gilets de sauvetage pour leurs clients.
Entre-temps, les opération des recherches continue. Plusieurs passagers sont toujours portés disparus. Kanana, André Katende Nalamulume, Radio Okapi.
Didier Moukoma, président national de la commission des transports à la Fédération des entreprises du Congo FECANSIG, secteur des armateurs, votre lecture de ce énième naufrage sur les eaux de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de récupérer Didier Moukoma tout à l'heure. Pourtant, nous l'avons salué avant de lancer le début de cette émission. Allons-y donc avec Pierre Sosten Kambidi, député provincial élu de Kazumba au Kasaï central. Vous êtes dans une région, le Kasaï, où ce phénomène est assez irrégulier. Et en République démocratique du Congo, comme nous l'avons souligné, ce n'est pas la première fois. Quel est votre regard sur ce énième naufrage sur les eaux de la RDC?
Merci, cher Donat. Ce énième accident qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes est le fruit généralement de la négligence humaine. Il va vous dire que l'accident qui s'est venu sur la rivière Kasaï au conflit avec la rivière Tankourou fait suite au fait que l'embarcation était dans un état très vétuste. En dehors de la vétusté de l'embarcation, l'embarcation a quitté le poste fluvial de Galina dans la nuit. J'ai suivi votre reporter qui dit que parce que l'armateur ne voulait pas se soumettre au contrôle. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, la négligence des services publics. Imaginez-vous les manifestes détenus par la DGM au niveau du poste fluvial de Galina reprend 30 passagers à bord de cette embarcation. Mais déjà, lorsque vous êtes arrivé à constater qu'il y a pas de faire escaper et que le manifeste reprend 30 passagers, trouver la faille et trouver le péché. Donc il y a beaucoup d'influence au niveau de la navigation dans notre pays. Et là, à côté de cette négligence, il y a l'absence d'équipement. Parce que votre reportage dit par exemple que les recherches se poursuivent. Les recherches se poursuivent avec quel matériel? Il n'y a pas d'équipement. Ce qu'on appelle commissariat fluvial au niveau du Lebo. Et je dois vous rappeler que le port du Lebo est le plus grand port pour l'espace Grand Kasaï. À l'époque de la colonisation, on appelait le Lebo port Franqui. Donc pour ceux qui connaissent port Franqui, c'est le port du Lebo. C'est le plus grand port au niveau de l'espace Grand Kasaï. Et lorsque le port du Lebo manque d'équipement, les services publics sont censés veiller à la sécurité des embarcations des personnes et de leurs biens, ils vont avec cette légèreté. La DGM reprend 30 personnes alors qu'il y avait plus de 150 personnes dans cette embarcation. Je crois que mis ensemble ce cocktail de négligence, la vétusté des embarcations et le manque de matériel, d'équipement nécessaire pour réguler la circulation sur nos rivières, on ne peut que déplorer les incidents comme celui du Lebo.
Honorable Pierre Sosten Kambidi, vous reconnaissez plus ou moins ce qui est pointé du doigt par tout le monde dans ce genre de situation, mais comment on en reste là, parce que c'est un phénomène qui persiste année après année, comment on en reste là malgré la responsabilité de l'État qui est engagé, mais malgré aussi la responsabilité aussi bien de transporteurs, probablement privés ou même publics, mais également la responsabilité des consommateurs, de la population elle-même.
Bon, ça relève du pouvoir régalien de l'État. Ça revient à l'État congolais de prendre le taureau par les cornes, d'analyser cette situation, de prendre les mesures qui s'imposent. Lorsque vous arrivez dans chaque port, vous trouvez qu'il y a des services publics qui perçoivent taxes et impôts. Cet argent va où? Si on ne s'est pas sécurisé, ceux qui prennent le risque de monter à bord des vieilles embarcations, et notamment, quand je dirais des sauvetages, je crois que tous nous avons péché et tous nous n'avons pas quoi à la vie éternelle. Il faudrait vraiment, ici je fais un appel de pied au gouvernement de la République pour qu'on prenne à bras le corps cette question de la négligence au niveau de la circulation sur nos rivières. Parce que ça ne s'est pas seulement passé à Ilebo. Vous avez rappelé que ça s'est passé dans la province de la Tchopo, au niveau de l'ex-province de l'Équateur. C'est au moins chaque mois qu'on a un cas comme ça des embarcations qui tuent des gens. Je crois qu'il revient au pouvoir public de prendre les responsabilités.
Pierre Sosten Kambidi, vous, à titre personnel ce soir, vous faites donc cette interpellation au gouvernement, mais j'imagine que vous parlez du gouvernement central, mais vous qui êtes député provincial du Kasaï central, que faites-vous généralement face à ce genre de phénomène? Y a-t-il débat à un moment ou à un autre à ce sujet, et où est-ce que vous en êtes, si jamais il y a débat, dans la recherche des solutions?
Lorsque j'ai évoqué tout à l'heure la question de la négligence humaine, négligence est générale. Elle n'est pas seulement au niveau des services qui sont commis aux différents postes niveaux, mais même au niveau des institutions politiques. Imaginez-vous qu'il y a eu cet accident au niveau du confluent des rivières Kasaï et Sankourou. Jusqu'à présent, le gouvernement provincial du Kasaï n'a rien fait, même pas un message des condoléances adressées aux familles qui ont perdu les leurs. Même, j'ai juste posé la question à l'exemple des territoires, M. Abdoul Mouewa, qui m'a dit qu'il avait envoyé des équipes pour essayer de voir si on pouvait récupérer quelques corps qui flotteraient sur la rivière. Donc la négligence n'est pas seulement dans le cadre du gouvernement de la République, mais c'est une négligence générale au niveau de toutes les institutions de la République. Donc il y a une sorte de démission. Voilà pourquoi j'ai fait cet appel à pied pour que nous, détenteurs du pouvoir public, nous puissions faire la question de la sécurité de nos compatriotes qui choisissent les rivières comme moyen pour leur circulation.
D'où ma question justement. Avant qu'on arrive au gouvernement central, je posais la question de vous qui êtes dans la province, vous êtes député provincial. Est-ce qu'il y a débat au niveau de l'Assemblée provinciale ou alors au niveau du gouvernement provincial? Si oui, comment pensez-vous, en attendant peut-être l'action du gouvernement central, que faites-vous ou que pensez-vous que vous pourriez faire pour cette situation au niveau provincial?
Au niveau des institutions provinciales, nous avons seulement constaté que nos compatriotes sont morts sur la rivière Kasaï. Ils partaient du territoire du Lébo vers le territoire des BTC. Ça s'est arrêté là. C'est quoi? J'évoque toujours cette question de négligence générale. Nous aussi, nous sommes dans ce phénomène de négligence générale. Donc, cette question n'a jamais été débattue ni au niveau de nos plénières, ni au niveau de nos gouvernements, ni au niveau des conseils des ministres. Peut-être qu'avec cette émission, demain, peut-être le gouvernement provincial pourrait se réveiller pour faire des messages de condoléances à l'endroit des familles qui ont perdu les leurs. Donc, cette négligence est générale.
Pierre Sosten Kambidi, restez avec nous dans ce débat. Didier Mkoma, est-ce que vous êtes là finalement?
Oui, je suis là, je suis là.
Merci de nous rejoindre dans ce débat. Didier Mkoma, vous êtes président national de la commission des transports à la Fédération des entreprises du Congo FEC, secteur des armateurs. Quelle réflexion vous ramène cette énième situation de naufrage en République démocratique du Congo, vous en tant que FEC?
Justement, ce qu'on savait, c'est un problème que nous déplorons tous les jours. Et c'est la même situation, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent et qu'on ne voit pas de solution. Et je dirais qu'il s'agit d'un problème qui est tellement complexe. C'est un problème, tout le monde est responsable dans cette situation qui arrive. c'est-à-dire, commençant par nous-mêmes les armateurs, nous sommes responsables. Il y a aussi notre équipage, il y a l'État, le gouvernement qui est aussi responsable d'une partie. Je dirais par exemple par rapport à nous les armateurs, c'est vrai, il y en a aussi qui ne respectent pas les normes de la navigation. Dans le sens qui est, bon, marqué, par exemple, si vous remarquez tous les accidents que nous connaissons ces derniers temps, en majorité, ce sont les baleinières. Bon, on en a même conscience, ce sont les baleinières. Les baleinières qui sont des pousseurs, donc ce sont des bateaux qui sont fabriqués en bois. Et ce sont des bateaux qui sont des matériaux fragiles. C'est un cas d'accident et c'est vraiment plus catastrophique que les autres types de bateaux qui sont faits en métaux. Donc là, c'est sur ce côté des armateurs. Et côté équipage, bon voilà, nous avons un considérable nombre d'années pour lesquelles une partie, une grande partie de notre personnel navigant n'est pas formé. Et tous les navigants que vous voyez sur terrain, ce sont des gens qui ont appris par expérience, c'est-à-dire ils sont dans un village, ils connaissent bien les fleurs et après un jour, ils sont passés matelot avec le frère qui devient capitaine. Donc, ça, ce sont des risques, faisant des fois des navigations à vue. Et côté l'État, voilà, bon, voyez, par exemple, nous avons ces gens-là qui n'ont pas été formés, nous avons des armateurs qui ont des bateaux qui ne respectent pas les normes. L'État doit être là aussi pour sanctionner, bon, si l'État ne sanctionne pas. Et voilà, tous ces gens-là, l'équipage, les armateurs, continuent à naviguer avec tous ces risques. C'est pour ça que nous avons aussi tous ces problèmes. Le troisième aussi, le quatrième, disons, c'est nous avons une équipe qui s'occupe du balisage, c'est-à-dire que l'entretien de la voie navigable. Pour le moment, il n'a pas assez de moyens, et ce qui fait que par an, il fait au moins le balisage une fois. Avant, sur soit la rivière Kassai ou soit le Congo. Mais pourtant, le balisage doit être permanent.
Merci. Didier Moukoma, est-ce que vous êtes là? On a l'impression que votre ligne vient de se couper. Michel Moulongo, en attendant de revenir sur Didier Moukoma pour écouter l'entièreté de son argumentation. Michel Moulongo, économiste des transports et spécialiste en transport multimodal. C'est un phénomène qui existe en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans, peut-être même 30 ans. Les causes sont plus ou moins connues. C'est soit les voyages nocturnes qui ne sont pas bien préparés, soit la surcharge, comme ça a été répété dans la plupart des cas mentionnés ici, que ce soit au Kwil ou au Kassai ou dans la province de la Tchopo. Pourquoi ce phénomène continue alors qu'au même moment, quand on regarde par exemple le transport terrestre ou routier, il y a eu des problèmes dans le passé aussi. Prenons par exemple le cas des véhicules de transport urbain. Il y avait eu des phénomènes de partage de jambes entre les passagers ou encore de surcharge aussi, mais il y a eu une vingtaine d'années, grâce à une intervention musclée des services publics, voire même des sévices corporels sur des personnes qui outrepassaient la réglementation. À Kinshasa, par exemple, on n'a plus ce phénomène de surcharge dans les transports en commun ou encore dans le taxi. Il n'y a plus de partage de jambes qui était indécent à l'époque, grâce à notamment cette action de cette époque-là qui a duré aujourd'hui une vingtaine d'années. Comment on arrive à résoudre le problème sur le transport routier et que sur le transport fluvial, plus de 20 ans après, on a les mêmes causes qui produisent les mêmes effets?
Merci, monsieur Guy. Je voudrais d'abord
remercier
aux membres des familles qui ont perdu les leurs. Alors, je voudrais rappeler ici que la RDC est un système de transport multimodal par essence, et ce système est basé sur les voies d'eau, notamment le fleuve Congo et ses affluents. ceci offre à peu près 25 000 km de voies navigables. Et c'est sur base de cette hydrographie magnifique que la métropole belge à l'époque coloniale avait bâti le système de transport de la RDT. Et évidemment, celui-ci est complété par les transports terrestres et le transport aérien qui font notamment les routes 150 000 km et les voies ferrées 5 000 km. Si je commençais par préliminaire là, c'est pour dire donner l'importance de la voie d'eau qui est en fait le boulevard royal sur base duquel est construit le système de transport en RDC. Alors, concernant les causes, les problématiques de la récurrence des accidents sur les voies d'eau, on peut les catégoriser en trois. La première catégorie, c'est les facteurs humains et structurels. Y compris dans ces facteurs, la substance chronique des embarcations, la navigation nocturne non autorisée et l'absence de formation de la plupart des membres d'équipage. Alors, la deuxième catégorie des causes, ce sont les défaillances matérielles du matériel d'exploitation, qui sont dues notamment à des embarcations vétustes qui constituent la flotte, comme l'a dit M. Didier Macomba, et aussi le fait que ces embarcations, qui sont constituées principalement de baleinières, qui sont des fabrications très précaires. Alors, la troisième catégorie des causes, concerne la gouvernance et la réglementation du secteur, où nous constatons beaucoup de failles, notamment le laxisme qui sévit et qui, dont l'organisation est devenue DGN. À la suite de cela, il y a aussi les embarquements clandestins. On se pose la question de savoir où sont situés exactement les ports dans l'arrière-pays. C'est plutôt des débarcadères où il n'y a pas une organisation présente de l'État. Voilà. Alors, vous dites, cette récurrence des accidents, comment résoudre cette problématique? Et vous faites la comparaison avec le transport terrestre. Moi, principalement, j'irai dans la comparaison avec le transport aérien, parce que l'organisation du transport maritime est semblable au transport aérien. Et vous savez qu'il y a une vingtaine d'années dans le pays, notre ciel était considéré comme un trou noir. Et le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour remettre en place une organisation qui puisse répondre aux normes internationalement admises. Et je crois que c'est ce type de réponse que nous devons donner au niveau de la réglementation dans le secteur maritime et fluvial. Ici, j'aimerais vous rappeler qu'entre 2010 et 2020, le gouvernement avait mis en place le projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et la piste de PANAV, qui était financé par l'Union européenne à 60 millions d'euros. Et ce projet a été déroulé entre 2010 et 2020. Son objectif était d'améliorer la navigabilité des voies fluviales lacustres à travers le balisage du fleuve Congo et de la rivière Kassai sur à peu près 2400 km. Donc 1742 km sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Kisangani et 605 km sur la rivière Kassai entre Mali-la-Croix et Ilebo. Il faut dire ici que ce projet qui a été mené à terme jusqu'en 2021 avait permis la reprise de la navigation de nuit sur l'axe Kinshasa-Kisangani et sur l'axe Kinshasa-Ilebo. Et voilà, c'est ce que je voulais dire.
Mais que pensez-vous de ceux qui pensent que, en plus de ce que vous venez de dire, la création des ports indépendants, peut-être pas une présence suffisante des taxes et contrôles techniques, seraient aussi les raisons à la base de la situation récurrente dans ce phénomène?
Non, je crois qu'il faut réorganiser le secteur, le sous-secteur de la marine et de la navigation. Il faut savoir ici qu'au niveau du secrétariat général des transports, il y a une direction de la marine et des voies navigables. Et cette direction qui est en charge la gestion et la régulation du sous-secteur maritime et des voies navigables. Et je constate dans les dires des ceux qui sont intervenus avant moi, il y a un élément important qui n'est pas repris dans la discussion, qui est le commissaire fluvial. On a l'impression qu'il y a total du commissaire fluvial dans la gestion portuaire ici dans l'arrière-pays. Et ce souffle d'accidents et d'incidents, parce que c'est lui l'élément important dans un port. Seul lui peut donner l'autorisation de départ et de non-départ des embarcations. Je pose la question ici à M. Pierre Sestin. Est-ce que dans le cas de l'accident à présent, où était le commissaire fluvial?
Allô, Michel Moulongo?
Oui.
Nous allons interpeller Pierre Sestin Kambidi tout à l'heure. Dans tous les cas, il a entendu votre interpellation et peut-être répondra-t-il lors de sa prochaine prise de parole. Didier Mukoma, nous nous sommes perdus tout à l'heure. Est-ce que vous êtes de retour?
Oui, je suis de retour. Je suis là.
Alors, les personnes qui décèdent ou qui disparaissent, en 20 ans, en 30 ans, c'est quand même un nombre impressionnant de population. Vous êtes du secteur des entrepreneurs. Entre vous, est-ce que vous n'en parlez pas? Est-ce que vous n'êtes pas suffisamment choqué pour rapidement trouver les solutions, même si on se rend compte que ça dure déjà depuis un moment?
Justement, bon, c'est quelque chose qui est choquant. Nous sommes tous humains. On ne peut pas supporter après que nous puissions perdre des vies humaines sans que nous soyons touchés. Pour le moment, je dirais qu'avec le vice-premier ministre, le ministre des Transports actuel, quelques efforts sont en train d'être faits, dans le sens que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les bateaux qui font beaucoup plus d'accidents pour le moment, ce sont les baleinières, donc les bateaux qui sont faits en bois. Et le VEPM, dont le vice-premier ministre, le ministre des Transports, a mis un projet en place de fabrication de plus de 5000 baleinières, donc bateaux métalliques. Ils vont, au fur et à mesure, remplacer tous ces bateaux en bois. Donc ça, c'est une des solutions. Deuxièmement, vous avez vu, il y avait l'obligation des ports de juillet. Donc, tous les passagers ont l'obligation de mettre leurs jets. Malgré qu'il y a un petit laisser aller, mais pour encore fortifier toutes ces mesures, le ministère des Transports vient de mettre en place au moins 20 bateaux, donc 20 canons rapides, qu'on va distribuer à tous les services de l'État, afin qu'ils puissent commencer à poursuivre les bateaux qui surchargent ou qui ne respectent pas les normes, ou bien qui transportent des passagers en cours de route. Donc, quelques efforts sont en train d'être faits. Tout à fait. Et on néglige pas. Et aussi, à part celui-là, nous avons aussi la modernisation de la navigation. Comme vous constaterez que nous sommes toujours
en train de naviguer d'une façon de l'Antiquité, donc avec les bâtons, des sondages, mon ami Balé, mon ami Satou. Mais je pense qu'au niveau du ministère des Transports, il y a un projet de numérisation. Donc on est en train de mettre la navigation, mais c'est un moderne, nous allons commencer à naviguer avec des GPS. On va installer des GPS partout. Et la navigation sera moderne. Je pense que c'est un élément aussi capital qui va nous aider à diminuer les accidents. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, la régie des voies fluviales, c'est vrai, avec le peu de moyens qu'il a, il essaie de faire un effort pour faire le balisage, mais ce n'est pas suffisant parce que le balisage doit être permanent, parce que il y a le stade qui est tout le temps mouvant. Alors une fois par an, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit régulier.
Allez-y.
Une dernière, c'est les chantiers navals. Et si à Kinshasa, par exemple, c'est le seul grand chantier naval, c'est justement celui de l'ONATRA, mais qui est dans un état,
dépassé,
vétuste. Oui. Donc, il a une grande capacité, mais les travaux, l'État ne permet pas à ce qu'il puisse prendre beaucoup de bateaux pour le travail. Et les autres chantiers privés, ça ne suffit pas. Ce qui fait que quelqu'un peut avoir la volonté de faire réparer son bateau, mais du fait qu'il n'a pas où faire sortir son unité pour les travaux, alors il continue à voyager. Donc, en bref, c'est ça. Bon, ce sont les choses que nous disons chaque jour, on se répète. Mais on n'a pas le choix, avec l'espoir qu'un jour ça ira.
Didier Moukoma, vous gardez la parole, notamment pour écouter le commentaire de cet auditeur qui nous appelle de Mbujimaï. Et nous allons vous prier de placer un commentaire juste après sa réaction.
Serge-Marie Kabeya en Mbujimaï au Kassai Oriental. Les naufrages à répétition sur les cours d'eau de la République démocratique du Congo sont principalement dus à la surcharge des embarcations, au non-respect des règles de navigation, au manque de contrôle des autorités, au mauvais état des bateaux, à l'absence d'équipement de sécurité et à la faible qualification de certains conducteurs. Pour prévenir ces drames, il est indispensable de renforcer les contrôles avant le départ, de faire respecter la capacité des embarcations, de rendre obligatoire les ports du gilet de sauvetage, de former les conducteurs, d'améliorer l'état des bateaux et de sanctionner les infractions. À plus long terme, le développement des infrastructures de transport et une meilleure sensibilisation des usagers contribueront à réduire ces accidents. En somme, la sécurité sur les voies navigables est une responsabilité partagée entre les autorités, les transporteurs et les passagers. Le respect strict des règles de navigation demeure la meilleure garantie pour protéger les vies humaines.
Didier Moukoma.
Oui, bon, il a presque résumé tout ce que j'avais dit, mais sauf que, bon, vous savez, on a toujours l'habitude de parler de surcharge. On confond quand on voit un bateau chargé jusqu'à un franc-bord limite, alors on pense que le bateau est surchargé. Ici, vous devez savoir qu'un bateau peut charger jusqu'à 20 cm de franc-bord. Franc-bord, ça veut dire que c'est la partie du bateau, de la barge qui est à l'extérieur de l'eau. Donc, la barge peut être enfoncée jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, ça dépend du niveau d'eau par rapport à la période, mais il peut aller jusqu'à 20 cm. Et beaucoup de gens, d'amateurs, quand ils voient un bateau chargé à 20 cm, 40 cm, ils parlent de surcharge. Mais ce n'est pas ça le problème. Bon. Et c'est vrai, il y en a aussi qui les surchargent. Ben, c'est parce que là, le plus important, c'est comme nous avons dit, nous avons les commissaires fluviaux qui sont dans les ports, qui doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas surcharge et que toutes les unités avant leur départ soient en bon état de navigabilité. Parce que vous savez, là, je voulais aussi préciser, il y a un de nos intervenants qui avait parlé de la direction de la marine, qui n'existe pas pour le moment, on a tenu cette direction D. Nous avons maintenant la marine marchande qui s'occupe de la partie de l'océan, donc à partir de Matadi jusqu'au-delà. Et pour la partie intérieure, nous avons la direction de la navigation fluviale intérieure. Donc c'est devenu des directions différentes avec des directeurs différents. Donc, je disais, c'est à eux de prendre les responsabilités. Et je me dis, bon, peut-être que comme on va leur mettre maintenant encore des canaux rapides, parce que souvent ils disent que non, ces gens-là, bon, ils disparaissent dans la nature et ils ne savent pas comment les poursuivre. Mais actuellement, comme je vous ai dit, les VPN viennent de mettre à leur disposition au moins 20 canons sur le fleuve. Le commissaire Filio, avec tous les services de sécurité dans les ports, n'auront pas d'excuses pour dire que non, non, ce bateau est passé pendant la nuit ou bien il est passé au large et nous, on n'a pas pu l'attraper. Donc, ils ont une occasion pour mettre la discipline dans les domaines, en fait, que nous puissions éviter tous ces cas-là.
Merci, voilà. Merci Ziomoukoma. Nous revenons à vous tout à l'heure pour faire les conclusions de cette émission. Pierre Sosten, Kambidi, un peu le même exercice que Didier Moukoma tout à l'heure. Nous vous prions de tendre l'oreille pour réagir après la réaction de cet auditeur de Béni.
Oui, samedi, depuis la région Nord-Kivu. Ce qui me préoccupe, c'est que ces naufrages ne sont plus de simples accidents, parce qu'ils deviennent malheureusement récurrents. À chaque drame, les causes sont les mêmes, ce qui est surprenant. Il y a surcharge, absence de contrôle et manque d'encadrement. Au point où je me demande alors si avons-nous vraiment un ministère des Transports qui exerce pleinement sa mission de régulation? Il y a lieu de se demander comment est-ce qu'une embarcation peut-elle quitter un port avec des centaines de passagers sans qu'aucun service ne vérifie sa capacité, son état ou soit même les conditions de navigation. En plein XXIe siècle, il est difficile d'accepter que les embarcations souvent conçues normalement pour les transports de marchandises servent aussi des transports de personnes dans de telles conditions. Cela montre surtout l'absence d'une véritable politique publique de sécurité des transports fluviaux. Dans un état sérieux où les mécanismes de redevabilité fonctionnent pleinement, un ministre des Transports serait déjà interpellé.
Pierre Sosten Kambidi.
Oui, mes compatriotes du Nord qui les saluent, après ce tout dit, le constat qu'il a établi est à 100% en conformité avec la réalité que nous vivons malheureusement. Donc, je n'ai rien à dire par rapport à ce constat que je partage entièrement.
Alors, il y a Charles de Kinshasa qui dit, et nous souhaitons avoir aussi votre réaction à son commentaire, à l'époque de Joseph Kabila, la ministre des Transports a été révoquée pour incompétence à la suite de ce genre d'événement, mais nous ne comprenons pas, je le lis, avec l'actuel ministre de Transport, le gouvernement ne réagit pas ni des sanctions responsables de ce secteur, ni par interpellation du ministre ayant la charge des transports. Il faut combien de mois pour qu'on puisse finalement envisager des sanctions responsables du secteur? Il parle probablement, sans doute, du gouvernement central, mais cette même question peut aussi se répercuter, un peu comme je vous ai posé tout à l'heure la question, sur vous, les autorités provinciales, assemblées provinciales, comme gouvernement provincial.
Malheureusement, cher Donat, c'est un héritage du régime Kabila et les institutions actuelles, tant au niveau national qu'au niveau provincial, sont en train de gérer. Donc, ce n'est pas une situation que les institutions actuelles ont créée, mais c'est un héritage. Vous vous rappelez très bien, et les compatriotes l'ont si bien dit, qu'à l'époque de Joseph Kabila, un ministre, je me rappelle, c'était Marie-Laure Kawanda, elle avait été démissionnée parce qu'elle avait dénoncé une certaine incurie au niveau des services publics. Donc, au niveau du gouvernement central, on avait trouvé manquer de la solidarité dans le chef de la ministre. C'est dit qu'à l'époque, la ministre avait été démissionnée. Ce n'est pas qu'elle avait été démissionnée pour incompétence, c'est parce qu'elle-même s'était trouvée dans une situation où elle n'arrivait pas à justifier tous ces accidents alors qu'il y avait des services qui se disaient par-ci par-là. Donc c'est un héritage lourd du régime passé. Les autorités actuelles essayent de gérer à leur manière. Tout à l'heure, l'un des amis avec qui nous sommes allés dans cette émission dit qu'au niveau du gouvernement central, il y a un projet visant à acquérir 20 canons rapides pour essayer de suivre le mouvement des bateaux sur le fleuve, mais je pense que ça ne va pas se limiter seulement au niveau de Kinshasa, l'acquisition de ces 20 canons rapides. Et il faudrait vraiment que le ministre pense aussi à certains ports très importants du pays, notamment le port d'Ilebo. Parce que si ça se limite seulement au niveau de Kinshasa et que les 20 canons doivent servir à suivre les bateaux sur le fleuve Congo, mais qu'en sera-t-il d'autres rivières sur lesquelles il y a un trafic fluvial très intense. Je crois que les efforts sont en train d'être faits. Autant ces efforts sont faits au niveau du réseau routier, ils devraient aussi être faits au niveau du transport fluvial pour qu'on puisse préserver les vies humaines et que les gens puissent voyager dans des conditions de sécurité normales.
Merci à vous, Pierre Sosten Kambidi. Michel Moulongo, pour vous aussi, nous allons écouter Néhémie de l'Omami.
Néhémie Trésor Chimba, depuis Kamina dans la province du Haut-Lomami. Je déplore le drame qui sont survenus et présente mes condoléances les plus émues aux familles éplorées. Je pense que ce débat ne date pas d'aujourd'hui, malgré les recommandations de plusieurs experts, après plusieurs autres naufrages survenus dans les mêmes conditions. Il revient à dire que les responsabilités sont partagées comme nous l'avons toujours dit, et l'État est en premier rang. Maintenant, que faut-il faire? Puisque nous avons déjà proposé 1. Le renforcement de contrôle des embarcations, 2. La lutte contre les surcharges, 3. Les ports obligatoires des gilets de sauvetage, surveiller les conditions météorologiques, ce qui me reste à dire à ces stades, et que l'arme la plus puissante pour tenter de diminuer les risques de naufrage à répétition est la sensibilisation pédagogique auprès des populations pour leur dire de ne plus embarquer dans une baleinière, un navire sans gilet de sauvetage, lorsqu'il y a surcharge, lorsque le manifeste d'embarquement ne sont pas dressés, lorsque les conditions météorologiques ne sont pas bonnes. À l'État de faire les dragages réguliers des eaux et d'avoir ses propres baleinières et navires pour tenter d'imposer les monopoles de l'ordre dans ces secteurs.
Michel Moulongo.
Oui, j'ai bien de suivre notre auditeur de Camille. Et je crois que l'ensemble des échanges qu'on a eu aujourd'hui revient finalement à dire qu'il faut absolument faire une réforme du sous-secteur de la marine et des voies navigables. Je suis désolé d'apprendre par vous en interne les deux...
Les intervenants?
Non, la direction de la marine et des voies navigables a été scindé en deux, parce que à l'époque, si je me rappelle bien, en 2010, il y avait un projet de réforme pour autonomiser cette direction. Vous vous rappellerez qu'au début, j'ai dit que c'était une direction qui était proche de la direction des voies aériennes, qui a été transformée en autorité de l'aviation civile. Et je crois que c'est la même réforme qui doit être faite au niveau de la direction de la marine et des voies navigables, parce qu'il est question ici de lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir être en mesure de réguler le secteur. Ici, on parle de l'importance du commissaire fluvial. On vous parle des équipements que le ministère des Transports au travers du commissaire fluvial n'a pas. L'essentiel, c'est de donner des moyens. La seule façon de donner les moyens, c'est de réformer ce secteur des transports en l'autonomisant, en devenant une direction générale de la marine et des voies navigables.
Allô, Michel Moulongo?
Oui, je vous écoute.
Oui, j'ai pensé que vous avez été interrompu, mais je me rends compte que vous avez terminé votre propos. Oui. C'est donc le moment pour nous de commencer les conclusions de cette émission. Didier Mukoma, président national de la Commission des Transports à la Fédération des Entreprises du Congo FEC, en cible secteur des armateurs. La plupart de vos interventions, tous les trois, vous avez beaucoup insisté sur les projections à long long terme qu'il faut faire, mais entre-temps, des personnes continuent de prendre les mêmes conditions très dangereuses pour voyager sur les eaux de la République démocratique du Congo. À partir de cette émission de ce soir, qu'est-ce que vous pouvez proposer déjà à très court terme, c'est-à-dire demain ou après-demain, que aussi bien les autorités, les armateurs, c'est-à-dire les entrepreneurs propriétaires d'embarcations, mais aussi aux populations, de faire, de mettre en place pour arrêter cette hécatombe, ces décès à répétition et parfois à des nombres très importants chaque jour sur les eaux de la RDC. Didier Moukoma, est-ce que vous êtes là?
Ah oui, je suis là.
Est-ce que vous pouvez réagir à la préoccupation?
Justement, bon, c'est comme je disais, c'est toujours la même chose que nous répétons.
Oui, mais aujourd'hui, nous souhaiterions quand même que vous ne répétiez pas machinalement ce qui est dit tous les jours, en fonction de la situation en présence, en fonction des moyens qui peuvent être à disposition et de l'état d'esprit des personnes. Quelles sont, selon vous, les baguettes magiques qu'on peut utiliser très, de manière très réaliste et immédiatement pour...
Les baguettes magiques qu'on peut utiliser, c'est comme ce que nous avons déjà dans ce qui concerne la sécurité de la navigation. Le gouvernement a déjà mis les canons rapides. Ça ne sera pas tellement pour Kinshasa, c'est pour le fleuve Congo et tous ses affluents. Donc, je pense que ça, c'est un des éléments qui va permettre le service de contrôle à faire le travail convenablement, en fait qu'ils ne puissent pas laisser les bateaux qui ne sont pas en état de navigabilité, ou soit qu'ils sont en état de puissent naviguer.
Mais 20 bateaux pour plus de 25 provinces, qui chacune a ses parties des eaux, comment ça va se passer?
Le fleuve ne traverse pas 25 provinces. Nous avons le fleuve avec ses affluents, bon. Ce n'est pas beaucoup plus, mais je pense qu'on va encore beaucoup avoir ajouté le canon. Donc, ça c'est le défi. Donc, à part cela, nous avons aussi le port de Gilexa. Nous devons encore beaucoup plus sensibiliser nos frères et sœurs qui prennent, parce que nous savons qu'il n'y a pas pour le moment des moyens pour que tout le monde puisse aller par avion ou bien par route vers, par exemple, dans des villages dans l'Équateur. Mais ce que nous demandons, le peu de moyens que nous avons de bateaux, que les gens aient cette conscience de porter les gilets, parce que ça fait partie de leur sécurité. Regardez, quand ils ont un accident, si quelqu'un a un gilet, il a au moins 90% de chances pour qu'il puisse survivre. Donc ça, c'est une deuxième chose que nous pouvons demander au niveau de la population, et le plus vite possible aussi, est que le gouvernement puisse activer son projet de remplacer tous les bateaux en bois par des bateaux métalliques. Bon. Ça, c'est quelque chose qui pourra aussi nous servir, parce que si vous remarquez très bien, les bateaux qui font des accidents pour le moment, ce sont des gens de bateaux qui ne sont pas confortables. Voilà. Donc, et de trois, c'est en tout cas le plus niveau possible, c'est la numérisation de la navigation. Nous sommes quand même au 21e siècle, nous ne pouvons pas rester à naviguer avec des systèmes archaïques. Donc, notre fleuve et tous ses affluents doivent être numérisés, et tous les bateaux doivent avoir des appareils satellitaires pour faciliter une navigation moderne. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes en train de naviguer à vie avec des gens que nous appelons des prédateurs, qui sont sur des voies navigables, en train d'aider les gens, nos personnels à les traverser. Donc voilà quelques conseils que je peux donner pour l'immédiat, et que ça pourra faire que, voilà...
On pourra
éviter beaucoup d'accidents.
Limiter peut-être la casse. Merci à vous, Didier Mukoma. Oui. Pierre Sosten Kambidi, député provincial élu de Kazumba au Kasaï central. En attendant, votre interpellation puisse donner des fruits auprès du gouvernement central et même auprès de vos collègues des provinces. Quel conseil donneriez-vous aussi en tant qu'observateur, mais aussi en tant qu'acteur très actif et élu de la province pour que cette situation de décès à répétition par un naufrage sur les eaux de la RDC s'arrête?
Oui, le seul conseil que je pourrais donner, c'est la prise de conscience générale. Autant tout à l'heure, j'ai évoqué la négligence générale, cette fois-ci, j'en appelle à une prise de conscience générale. Chaque maillon de la chaîne devait jouer sa partition. Le gouvernement de la République, ou bien les institutions de la République, tant au niveau national qu'au niveau provincial, devraient jouer leur part du système en veillant à l'application de la réglementation en la matière. Et puis, même ceux qui voyagent, les voyageurs devaient eux aussi avoir la conscience, parce que c'est là nous déplorons les morts. Je m'incline sur la mémoire des compatriotes qui ont perdu leur vie sur la rivière Kasaï. Ceux qui voyagent devraient aussi avoir la conscience. Pourquoi vouloir monter à bord d'une embarcation plus de 200 personnes? Pourquoi vouloir prendre une embarcation dans la nuit sans moyen de sécurité, sans gilet de sauvetage? Donc, sans prise de conscience générale, je crois que tous les efforts consentis pourraient être vains. J'en appelle vraiment à la prise de conscience à tous les niveaux pour essayer de limiter ces accidents à répétition sur les rivières à travers la République démocratique du Congo.
Merci à vous, Pierre Sosten Kambidi, Michel Moulongo, économiste des transports et spécialiste en transport multimodal. Pour des résolutions à court terme de ce problème, nous parlons beaucoup sur le long terme, mais vraiment pour les 2, 3, 4, 5 jours, la semaine qui va suivre, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que, par exemple, mettre de côté les embarcations pas en état de bien fonctionner, ça peut être la solution?
C'est la solution. Mais il faut savoir que ce sont ces embarcations-là qui sont l'essentiel du cargo qui alimente les différentes parties du pays dans l'intérieur. Je crois que dans un premier temps, il faut renforcer le contrôle des embarcations au départ, en remettant le commissaire fluvial dans ses prérogatives réglementaires. Je crois que c'est l'une des solutions. Parce que c'est en quittant le port sans être contrôlé que ces embarcations vont commettre des accidents ou échouer.
Merci à vous.
Ensuite, il faudra peut-être autonomiser la direction de la marine et des maritimes, comme je l'ai dit. Et je voudrais revenir sur un fait, vous donner l'information que dans le cadre du projet PANAF dont j'ai parlé, ils ont eu à produire des nouvelles cartes de navigation numérique qui sont importantes. Et je crois que les armateurs sont au courant que ces cartes-là existent. Ils doivent s'en approprier.
Merci donc à Didier Mukoma, Pierre Sosten Kambidi et Michel Moulongo pour votre présence à l'émission de ce soir. Merci aussi à Sylvain Baogouere, Guy Maté, Benjamin Moudoumbi pour m'avoir aidé à produire l'édition de ce soir. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Donald Madimba, c'est moi à la présentation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir.